Europe Matin. Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1. Nous sommes le mardi 14 décembre. On est à 10 jours pile du réveillon de Noël et on est heureux de vous accompagner au tout début de votre journée. Nous fournissons dès le matin, dès le réveil, sourire et info à la une ce matin, Julien.
Un compte à rebours, Omblin, vous l'avez dit, on n'est plus qu'à 10 jours du réveillon de Noël, événement que nous ne voulons manquer pour rien au monde. On veut retrouver notre famille, partager un moment précieux avec nos proches et il est donc hors de question de les mettre en danger.
Car pour la deuxième année consécutive, un intrus nommé Covid menace de s'inviter à table.
Comment faire en sorte que le virus reste sur le palier, qu'il ne gâche pas la fête et que tout le monde, même les plus fragiles, puissent réveillonner en toute sécurité? Eh bien, c'est maintenant que tout se joue, qu'il faut réduire au maximum ses contacts, d'autant que l'ultra-contagieux variant Omicron rôde et va devenir vite majoritaire. On en parle à 6h10 avec notre invité, le professeur de médecine Alexandre Mignon. Dans l'actualité également, Omblin, ce projet de loi relatif à la protection des enfants débattu au Sénat aujourd'hui et demain.
Et il prévoit notamment d'interdire la séparation des frères et sœurs placés après des violences familiales. Un texte voté à l'unanimité par l'Assemblée nationale en juillet dernier. Pour de nombreux acteurs de la protection de l'enfance, diviser les fratries entraîne un traumatisme supplémentaire, en particulier pour les jeunes enfants. Mais est-ce qu'interdire cette séparation des frères et des sœurs par une loi, cela va réellement changer les choses? De quels moyens disposent les associations et les structures d'accueil alors? Sont-elles en nombre suffisant? Nous poserons toutes ces questions à 6h moins le quart à Isabelle Moret, la directrice générale de SOS Village d'Enfants.
Enfin, Omblin, on va terminer comme chaque matin cette petite matinale avec votre partition.
Son nom est foncièrement associé à celui de l'Olympia à Paris.
Je reviens te chercher, je savais que tu m'attendais.
Entre fauteuil arraché et vive émotion lors de sa réouverture en 1997, l'histoire d'amour entre Gilbert Bécaud et la salle de spectacle dans la partition à 6h20.
Voilà donc pour une partie du programme. Bienvenue à tous sur Europe 1, très bon réveil. Et on commence avec la météo. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.
Bon, c'est encore couvert ce matin.
Oui, c'est très couvert. En fait, on a toujours un très bel anticyclone qui est posté sur la France. Alors, il nous protège du mauvais temps. Vous avez dû le constater hier après-midi, surtout sur la moitié sud du pays. On a un très beau mois de décembre pour l'instant. Alors, il faut savoir que cet anticyclone, il nous protège du mauvais temps, mais il bloque l'humidité au sol, ce qui fait qu'on a vraiment beaucoup de brouillard. D'ailleurs, aujourd'hui, ils sont plus nombreux et plus épais qu'hier. Donc, soyez prudents du côté de la Normandie, dans l'ouest du pays. On a beaucoup de brouillard sur les Pays de la Loire jusqu'en Gironde, à l'est également, en Bourgogne, en région parisienne, dans le Val-de-Saône, jusque dans le centre-est. Là, c'est vraiment très, très difficile sur les routes. Vous pouvez me dire ce qui se passe. Si vous êtes déjà sur les routes, n'hésitez pas. Je vais lire tous vos messages, évidemment. Alors, cet après-midi, comme hier, on a un ciel qui reste gris sur toute la moitié nord. C'est très gris entre la Bretagne et l'Alsace. Pas de pluie, mais très gris. Et puis sur la moitié sud, c'est du grand et beau soleil, comme hier, avec même une ambiance printanière cet après-midi. Les températures ce matin, on a des petites gelées dans le centre-est et l'arrière-pays provençal, jusqu'à 9 degrés dans le nord-ouest et 19 cet après-midi.
On attend effectivement tous vos messages sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment avec le hashtag Europe 1. Merci beaucoup Anissa Haddadi. Très bon réveil à tous, à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h. Valérie Pécresse installe le match. Son adversaire numéro 1, Emmanuel Macron. Hier, depuis Calais, la candidate Les Républicains a taclé le président. Elle le martèle. Emmanuel Macron va utiliser la présidence française de l'Union européenne pour faire campagne. Le pape soutient la conférence des évêques de France après la remise du rapport de la commission Sauvé sur la pédocriminalité dans l'Église. Une délégation a été reçue hier au Vatican. Et puis plus de 100 personnes toujours portées disparues ce matin dans le Kentucky après les tornades meurtrières de samedi. Un phénomène historique. Et cette question, les tornades sont-elles de plus en plus fréquentes et violentes aux États-Unis? Réponse dans ce journal.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et le premier journal de ce mardi 14 décembre vous est présenté par Alban Leprince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Opération séduction sur la côte d'Opale pour Valérie Pécresse. Premier vrai déplacement de campagne hier à Calais, puis Boulogne-sur-Mer. L'occasion pour la candidate Les Républicains de s'en prendre à la Commission européenne sur la question des licences de pêche. Elle veut aussi renégocier les accords du Touquet sur l'immigration clandestine vers le Royaume-Uni. Alexandre Chauveau, c'est aussi un match qu'installe Valérie Pécresse avec son adversaire numéro 1, Emmanuel Macron.
Oui, après un entretien avec la maire de Calais, Natacha Bouchard.
Bonjour Madame le maire, comment tu vas ?
Et ses premiers selfies en tant que candidate.
Tu as quel âge ?
J'ai 19 ans. C'est la première fois que je vais voter.
Eh ben c'est super. Vote bien, hein, surtout. Pas.
Valérie Pécresse visite un commissariat, puis rencontre les représentants des pêcheurs à Boulogne-sur-Mer.
Tout ce qu'on demande, c'est de continuer de travailler dans des bonnes conditions et qu'on nous aide à y arriver. C'est tout ce qu'on demande.
L'occasion pour la candidate de s'en prendre à Emmanuel Macron sur la question des licences de pêche.
Aujourd'hui, on a un président de la République qui donne des leçons, beaucoup, mais qui ne suit pas les dossiers comme moi, je les suivrai.
Et de lui reprocher de ne pas avoir décalé la présidence française de l'Union européenne.
C'est une faute, et il le fait pour ses intérêts personnels, pas pour vos intérêts ou les intérêts de la France.
Valérie Pécresse entend ainsi installer un duel avec le président et lui réserve toutes ses flèches. Au sujet de son interview prévue demain, elle l'attaque à nouveau en demandant au CSA de décompter son temps de parole, comme l'avait été celui d'Éric Zemmour avant de se déclarer. Un déplacement conclu par une réunion publique dans un gymnase devant 600 personnes, où au milieu de ses propositions, le président sortant a à nouveau concentré l'essentiel de ses critiques.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.
Une insulte à la mémoire de nos héros. Vive condamnation d'Emmanuel Macron hier après la découverte de tags anti-pass sanitaire au Mont-Valérien.
Intolérable, réagit de son côté la candidate PS, Anne Hidalgo. Le mot passe, écrit d'une telle manière que les deux S font penser au sigle nazi SS. L'inscription longue de 50 mètres a été effacée du mémorial de la France combattante, mais l'indignation persiste pour le maire de Suresnes, Guillaume Boudy.
On a été tous abasourdis à la fois par la bêtise insondable et le scandale, si vous voulez, d'une telle inscription sur un monument qui est extrêmement cher aux Français. En général, comme ils l'ont démontré quand ils ont suivi les obsèques d'Hubert Germain, dernier compagnon de la Libération, et en particulier, vous l'imaginez bien, aux Surénois, qui se considèrent un peu comme les gardiens de ce site-là, qui passe quasiment tous les jours devant, et ce qui rend l'outrage d'autant plus incroyable et inacceptable sur un monument qui justement célèbre la lutte de gens qui ont donné leur vie pour lutter contre le nazisme. Voilà, donc vous comprendrez que nous on est très choqués évidemment par cette affaire et on va avec l'État évidemment tout faire pour que ça ne se reproduise pas.
Des propos recueillis par Océane Théard. Une enquête est ouverte et des caméras de surveillance seront installées sur le site en début d'année prochaine.
Les évêques de France, enfin reçus par le pape, un mois et demi après la publication du rapport Sauvé.
Et le rendez-vous se faisait attendre. C'est chose faite. Depuis hier, une délégation de la conférence des évêques de France était au Vatican. Au cœur des discussions, le rapport sur la pédocriminalité dans l'Église. Virginie Riva, comment s'est passé ce rendez-vous ?
Alors, les évêques ont rendu compte au pape des décisions qu'ils ont prises suite à la remise du rapport Sauvé, reconnaissance de la responsabilité systémique de l'Église dans les crimes sexuels, indemnisation des victimes, alors que des critiques avaient été formulées en France sur la méthodologie d'enquête de la commission, par l'Académie catholique notamment. Le pape a fait savoir aux évêques qu'il allait bien recevoir la commission Sauvé, le signe d'un soutien total du pape pour Éric de Moulin-Beaufort, président de la conférence des évêques de France.
Et maintenant, nous pouvons affirmer, si quelqu'un en doutait, le soutien du pape. Parce que je dis si quelqu'un en doutait, parce que personnellement, j'en ai jamais vraiment douté du soutien du pape, parce qu'on en a quand même parlé plusieurs fois avec lui. Et personnellement, je n'ai pas de doute sur sa volonté que l'Église sorte d'une attitude ambiguë sur ses affaires, et en particulier sur la manière de les mettre à jour et de traiter ceux qui s'en rendent coupables. Et aujourd'hui, sur l'attention à avoir aux personnes victimes, il a suffisamment insisté là-dessus déjà à plusieurs reprises.
Reste désormais à trouver une date dans l'agenda du pape pour qu'il reçoive la commission. Le pape, qui à ce stade n'a pas lu le rapport, mais Mgr Éric de Moulin-Beaufort lui a remis hier une note écrite.
Merci Virginie Riva, journaliste au service Société d'Europe 1.
C'est l'information de la nuit. Une alerte au tsunami a été déclenchée au large de l'Indonésie.
Conséquence potentielle d'un séisme de magnitude 7,3 qui a frappé l'est du pays ce matin. Le tremblement de terre s'est produit il y a moins d'une heure.
On prend maintenant la direction des États-Unis où 109 personnes sont toujours portées disparues ce matin dans le Kentucky, trois jours après le passage de multiples tornades aussi historiques que meurtrières.
88 personnes sont décédées dans l'État, balayé par le phénomène d'une ampleur exceptionnelle, âgé de 5 mois seulement à 86 ans. Ces tornades semblent se multiplier dans le pays. Alexis Guilleux, vous êtes notre envoyé spécial à Mayfield, devenu le symbole de la dévastation. Et sur place, tout le monde fait le même constat. Les catastrophes sont de plus en plus intenses.
Oui, les esprits sont encore marqués par la puissance de la tornade. Joe Harry, des pasteurs à Mayfield, vendredi soir, l'église où il s'était réfugié n'a pas résisté.
Je crois que la météo que l'on vit est de plus en plus violente, de plus en plus imprévisible. Et même si on a reçu des avertissements, ce n'était pas possible de saisir la dangerosité de cette tornade.
Pourtant, il n'y a pas de lien scientifique établi entre l'intensité d'une tornade et le réchauffement de la planète. Attribuer cette tornade au changement climatique, ce n'est pas évident, explique Hunter Fox. Il est chasseur de tornades, il les suit sur le terrain et depuis chez lui, en 10 ans, il a surtout constaté une évolution géographique.
Avec le climat qui se réchauffe, il y a une tendance qui se dessine. Les tornades apparaissent de plus en plus vers l'est des États-Unis, dans des zones plus densément peuplées. Donc si les tornades frappent ces aires urbaines, davantage de populations seront touchées.
Toutes les tornades sont des menaces, assure Hunter Fox. Le changement climatique pourrait les rendre plus dévastatrices si elles s'abattent sur des régions urbanisées. La solution, davantage de prévention, connaître les bons réflexes, comme s'abriter dans une pièce sans fenêtre, et surtout, prendre les alertes très au sérieux.
Alexis Guilleux, envoyé spécial à Mayfield, dans le Kentucky. Joe Biden, le président américain, se rendra sur place demain, ainsi que dans la ville de Dawson Springs, à une centaine de kilomètres, pour évaluer les dégâts.
Retour en France, où il faut défendre une filière gastronomique d'excellence, celle du foie gras.
Dans un manifeste publié hier, 56 élus du Périgord condamnent le bannissement des canapés au foie gras, des réceptions officielles dans les mairies de Lyon, Grenoble ou encore Strasbourg. Une vision dépassée selon les élus périgourdins. C'est le cas notamment de Jean-Pierre Cubert-Taffon, député Modem de Dordogne, l'un des premiers à avoir pris sa plume.
On gave les oies depuis des millénaires. Il a toujours existé et franchement, il n'est pas question de le remettre en cause. Les éleveurs prennent de grandes précautions pour pas que l'animal ne souffre. Moi, je rentre de l'étranger, quand je dis que je suis du Périgord, bien on me dit « Ah oui, c'est le pays de la truffe, c'est le pays du foie gras ». Ce sont d'excellents ambassadeurs pour nous, ces produits. Ça fait partie du patrimoine culturel et c'est un symbole de la fête, c'est un symbole des réunions familiales. Donc on ne peut pas laisser tout passer quand même.
Des propos recueillis par Thibaut Hue pour Europe 1.
On termine avec le foot et le tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des Champions.
Les supporters en auront pour leur argent. PSG, Real Madrid, match de rêve. Allez, prévu le 15 février pour Paris, retour le 9 mars. Ce sont deux des plus grands clubs européens qui s'affronteront. Ce n'est pas une affiche comme une autre. Certains joueurs sont passés dans l'équipe adverse, d'autres pourraient le faire. Jean-François Pérez, ça promet.
Oui, d'une certaine manière, c'est l'affiche de rêve, celle qui oppose le club aux 13 victoires en Ligue des Champions, record absolu, à celui qui aspire si ardemment à la conquérir enfin, le PSG. Les deux équipes ont un riche passé en commun. Carlo Ancelotti, l'ancien entraîneur parisien, va retrouver le Parc des Princes. Karim Benzema, le public français. Lionel Messi, les fans espagnols. Mais tous les regards seront tournés vers Kylian Mbappé, en fin de contrat à Paris, annoncé au Real. Pour notre consultant et ancien du PSG, Jimmy Algerino, ce rendez-vous s'annonce exceptionnel pour le champion du monde français.
Se retrouver à jouer le match PSG-Real, je trouve ça quand même assez incroyable et beau aussi parce que pour le joueur, pour sa carrière, humainement, il ne peut être que touché. Les sentiments vont primer sur le professionnel qu'il est.
Le PSG a déjà battu le Real en Ligue des Champions mais ne l'a jamais éliminé. Il y a 4 ans, Mbappé et les autres avaient subi une double défaite, déjà en 8e de finale. L'envie de revanche sera forte avec un porte-bonheur nommé Sergio Ramos, l'ancien capitaine du Real et désormais parisien. S'il revient en forme, les rêves de château en Espagne du PSG pourraient enfin devenir réalité.
Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1. Lille n'a pas été gâté par le tirage au sort des 8e de la Ligue des Champions. Le LOSC affrontera le tenant du titre, Chelsea. Rendez-vous les 22 février et 16 mars.
On sera au rendez-vous. Merci beaucoup Alban Leprince pour ce journal.
Il est 5h10 et on passe aux courses sur Europe 1. Le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Pau et mon pari gagnant sera le 514 Green Dragoness. Irrésistible. Lors de sa dernière sortie le 23 septembre à Compiègne, dans la discipline du steeplechase, elle évoluera cet après-midi sur les haies où elle n'a encore jamais connu la défaite. Cette jument allante alterne en effet avec réussite les deux spécialités et elle devrait pouvoir une nouvelle fois s'imposer et remporter ainsi sa 3e victoire en seulement 5 tentatives. Alors notez bien. Pour cet après-midi à Pau, réunion 1 dans la 5e course, le numéro 14, Green Dragoness.
Le numéro 14, c'est noté, merci Thierry Léger. Et vous revenez dans une petite demi-heure pour les pronostics du Quintet. Soyez les bienvenus si vous venez de vous réveiller ou si vous terminez votre nuit. En tout cas, merci d'avoir choisi Europe 1 et ne vous éloignez surtout pas. On va ouvrir le pressing dans moins d'une minute.
Ah bah oui, encore un programme plein de promesses. Un final de Koh-Lanta au goût de scandale. Pékin fait la pluie et le beau temps et l'électrique. Eh ben c'est pas fantastique, à tout de suite.
Omblin Roche. Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
Il est presque 5h12, bon réveil comme chaque jour pour le pressing. On est rejoint par Martin Lange.
Bonjour Martin. Bonjour Obline, bonjour Julien, bonjour à tous.
On commence avec les unes de vos journaux. Dette et déficit s'invitent dans la bataille présidentielle, titre Le Figaro, alors que demain, l'Assemblée nationale votera le dernier budget du quinquennat en déficit de, tenez-vous bien, 153 milliards d'euros. Le journal prédit que le redressement des finances publiques sera au cœur des débats pour 2022. Un jeu de mots à la une d'aujourd'hui en France. Les JO entrent en scène. SN écrit S-E-I-N-E. Le fleuve partira en, servira en effet de fil conducteur et de décor naturel à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. 10 000 athlètes défileront sur des bateaux. Et puis, ratage au sort, c'est le titre à la une de l'équipe au lendemain d'un tirage rocambolesque des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. L'UEFA a dû s'y reprendre à deux fois en raison d'une série d'erreurs. Voilà pour les unes. Omblin, quel article avez-vous retenu ?
Ce soir, c'est la finale de Koh-Lanta.
Décidément, vous adorez Koh-Lanta, Omblin.
C'est une série. Il y a plusieurs épisodes. Ultime épisode de l'édition 2021.
Ça vient à la frénésie.
Ouais. À la télé. Mais ce n'est pas, et ça va vous plaire sans doute, le dernier épisode de l'affaire de la tricherie. Le Parisien aujourd'hui en France consacre à nouveau une double page au programme particulièrement chahuté par des polémiques. On vous a parlé du cas Théoura et son steak frites qui a avoué sa faute. On est revenu la semaine dernière, effectivement Martin, sur les dîners clandestins après les conseils impliquant 5 candidats dont 2 finalistes, 2 chouchous des téléspectateurs, Claude et Laurent pour rappel. Une fois les caméras éteintes, il se faufilait aux yeux et à la barbe des surveillants, marchait pendant 15 minutes dans la jungle pour rejoindre un bungalow où un couple leur servait à dîner au menu pizza et chocolat. Pas d'alcool. Pas d'alcool, malheur, on est passé à deux doigts de la catastrophe. Depuis ces révélations, la production mène l'enquête et interroge les candidats. Vous savez que l'aventure, à proprement parler, c'est terminé il y a plusieurs mois et que seulement le dépouillement des votes a lieu aujourd'hui. Tous rejettent en bloc ces accusations, Claude et Laurent en l'occurrence. Sauf qu'une mystérieuse photo existerait, photo sur laquelle on distinguerait Claude, Laurent et d'autres camarades roublards attablés devant des assiettes bien garnies. C'est ce que nous dit le quotidien. Mais où est-elle cette photo ? Difficile à dire lorsqu'on lit l'article du Parisien. Et maintenant, ça c'est la question brûlante que tous les fans se posent à quelques heures de l'ultime épreuve, celle des poteaux, pendant laquelle s'affronteront donc Laurent, Claude et Hugo, qui a priori n'a pas bénéficié du même régime alimentaire que les autres. Et maintenant, eh bien l'annulation des votes et de la victoire. C'est l'une des hypothèses. Les 100 000 euros pourraient être dans ce cas-là versés à la Fondation Bertrand Kamal, le candidat mythique de 2020 décédé d'un cancer. Sachez en tout cas qu'exceptionnellement la finale ce soir ne sera pas en direct. Tous les candidats ont été convoqués pour être sur le plateau ce matin à 10h afin d'enregistrer l'émission. Ils vont peut-être faire plusieurs fins d'émission. Soyez prévenus, lors des prochaines éditions de Koh-Lanta, la surveillance sera renforcé, c'est dans le Parisien aujourd'hui en France. Et non, on s'en lasse pas, je suis désolée.
Non, mais
ni de Koh-Lanta, ni de l'affaire de la tricherie.
Le Watergate à côté, c'est du pipi de chat.
Ah bah, on est bien d'accord.
Bon, merci. D'accord. Oh, l'affaire à suivre donc. Merci, Omblin.
Je serai là.
Hein, Martin, on débriefera demain matin. Hein. Nouvel article du Parisien sur le final de Koh-Lanta. Martin, à vous.
Julien, on dit souvent dans les couloirs d'Europe 1 que vous y faites la pluie et le beau temps. Alors, c'est une expression, ouf, évidemment.
Ah bon ?
Mais il y a un pays qui rêve vraiment de faire la pluie et le beau temps. C'est la Chine.
Ça fait mauvais.
Ah, au sens premier du terme.
Exactement, au sens premier du terme. D'ailleurs, un des chercheurs chinois ont récemment révélé que les autorités chinoises avaient réussi à modifier la météo lors du centenaire du Parti communiste. Concrètement, ils ont fait fuir les nuages et réduit la pollution pour avoir un joli ciel bleu.
Alors moi, j'aimerais bien savoir comment c'est possible, ça, Martin.
Eh bien, contrôler la météo, hein, c'est un vieux fantasme chinois. En 2020, le pays a d'ailleurs lancé son programme de modification météorologique. À l'époque, les responsables chinois espéraient infléchir la météo d'ici 2025 en commandant à leur guise neige, pluie et beau temps, mais visiblement la recherche va beaucoup plus vite que prévu derrière la Grande Muraille. Alors contrôler la météo, comment ça marche ? Eh bien grâce à une technique qui s'appelle l'encensement des nuages. Ça consiste à injecter grâce à des avions ou des canons anti-aériens de petites quantités d'iodure d'argent dans les nuages, une molécule qui condense l'humidité et provoque des précipitations. Une technologie forcément intéressante car elle permet de contrôler la pluie, donc d'éviter les sécheresses, les incendies ou encore de soutenir l'agriculture. Mais une technologie qui n'est pas vraiment nouvelle. Elle avait par exemple déjà été utilisée lors des JO de Pékin en 2008 pour s'assurer d'un temps clément. La vraie nouveauté en fait avec ce programme,
si je peux me permettre, elle a même été expérimentée dès les années 50 par l'armée américaine.
Et ben vous en savez encore plus que moi.
Non,
Julien.
Non, mais...
La vraie nouveauté avec ce programme, c'est la zone que la Chine souhaite désormais couvrir. Pas moins de 56% de son territoire, 5,5 millions de kilomètres, hein, pour vous rendre compte, c'est plus de 10 fois la France. Alors forcément, ces annonces inquiètent les voisins de la Chine, notamment l'Inde, qui dénonce la militarisation du temps. Dépendante de la mousson, le pays craint surtout des perturbations de son système météorologique qui pourraient avoir des conséquences dramatiques sur son agriculture. Mais visiblement, un pas de coin perturbé Pékin, qui a déjà dépensé entre 2012 et 2017, plus de 1,3 milliard de dollars dans son programme de modification de la météo. I'm singing in the rain, just singing in the rain. La Chine peut-elle vraiment contrôler sa météo? C'est à retrouver sur le site de West France.
Merci beaucoup Martin. Vous connaissez je crois ma passion pour l'automobile et je ne pouvais donc résister à vous raconter cet article dont je vous lis le titre. Le Figaro a fait 700 km en voiture électrique, un vrai parcours du combattant. Bon, alors quand on regarde la photo qui illustre l'article, le parcours du combattant ne saute pas vraiment aux yeux, vu que le bolide qu'a emprunté le journaliste du Figaro n'est autre qu'une rutilante limousine Mercedes, la EQS facturée 127 000 euros, soit le prix de 4 Renault Zoé, la voiture électrique la plus vendue en France. C'est donc dans un habitacle luxueux, composé de matériaux nobles et bardé d'écrans high-tech, que le quotidien nous emmène pour une virée entre Lyon et Reims, un trajet de 730 km exactement, soit un peu moins que l'autonomie affichée par le bolide Mercedes qui dispose de la plus grosse batterie du marché, tellement grosse qu'il faut au passage 2 jours pour la recharger sur une prise domestique. Fini donc la boule au ventre au volant d'un véhicule électrique avec une telle autonomie, votre voyage ne sera que sérénité. C'est en tout cas ce que le constructeur à l'étoile nous vend.
Sauf que ce n'est pas encore tout à fait ça.
Alors déjà, oubliez tout de suite l'idée de prendre la route sans savoir exactement où vous allez parce qu'avec l'électrique aujourd'hui, vous êtes tributaire des bornes de recharge et de leur compatibilité avec votre véhicule. Il y a plusieurs types de puissance, plusieurs types de câbles et plusieurs opérateurs différents. Le problème, c'est qu'ils ne fonctionnent pas comme les stations-service où l'on paye directement l'essence qu'on met dans son réservoir. Non, ces réseaux fonctionnent à l'abonnement puisqu'aucune borne n'accepte le paiement par carte bancaire. Voilà pourquoi passer l'émerveillement d'être au volant d'une limousine électrique, une légère angoisse vous saisit avant de vous élancer quand il s'agit d'entrer sur l'écran de la Mercedes votre destination et le réseau de bornes auquel vous êtes abonné. Une règle d'or qui vaut pour chaque déplacement et mine de rien, cela devient vite pesant, cette absence de liberté et d'insouciance, il faut absolument tout planifié. Alors vu le prix de l'engin, l'ordinateur de bord fait tout pour vous. Il tient en compte, il prend en compte la topographie du parcours, la température ambiante, la vitesse ainsi que les besoins en chauffage et en refroidissement. C'est très bien fait. En quelques secondes, le système vous propose plusieurs itinéraires pour votre Lyon-Reims. Et là, première surprise, il ne sera pas possible de faire le voyage d'une seule traite. En tout cas, pas si l'on veut pouvoir profiter des quelques 300 chevaux de l'engin. Il va falloir faire une halte pour une courte recharge rapide. Bon, rien de scandaleux hein, pour un voyage de plus de 700 km où une pause déjeuner et un passage aux toilettes et s'imposaient de toute façon. Mais là où le voyage prend une tournure inquiétante, c'est quand une fois arrivé à la station de recharge, notre confrère du Figaro constate que la borne ne fonctionne pas, c'est un grand classique. Pire, il n'y en a aucune autre sur le reste du parcours, il a donc fallu parcourir les 170 km restants en se rongeant les ongles, mode éco-activé, chauffage coupé,
30 km/h.
Et accélération digne d'un escargot, exactement, le tout avec les yeux rivés sur la jauge, on imagine l'angoisse. 7%, c'est le peu de batterie qu'il restait à notre grand aventurier quand il est finalement arrivé à bon port. Voici sa conclusion. Voyager en électrique est loin d'être de tout repos. Personne cardiaque, s'abstenir.
C'est drôle. Merci beaucoup Julien. Et c'est tout pour aujourd'hui. On revient demain, bien sûr, avec le pressing. Et Martin, on vous retrouve dans une quarantaine de minutes, donc bien avant pour les sports.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Matin.
Omblin Roche et Julien Pierce.
5h20 sur Europe 1, les principaux titres de l'actualité avec Alban Le Prince.
Le variant Omicron n'épargnera pas la France, c'est en tout cas l'avis du Conseil scientifique. Il semble se répandre extrêmement rapidement. Selon les dernières informations disponibles, Omicron devrait remplacer progressivement Delta dans les premières semaines de 2022. Yannick Agnel, mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineur, selon la procureure de la République de Mulhouse. L'ancien nageur double champion olympique reconnaît la matérialité des faits, pas la contrainte. La Fédération française de natation se constitue partie civile. Et puis en Indonésie, un tsunami dangereux pourrait s'abattre le long des côtes du pays. Alerte lancée après un séisme de magnitude 7,3 à l'est de l'Indonésie il y a une heure.
Europe 1.
BNP Paribas, banque référente des entreprises, vous présente Initiative en France.
Bonjour Mathilde Mollat.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes la directrice de la communication de la librairie Mola à Bordeaux, librairie dont notre correspondant Stéphane Place arpente les rayons chaque été pour nous partager de précieux conseils lecture. Et si on vous appelle ce matin, c'est parce que vous venez d'ouvrir une boutique éphémère pour les fêtes, boutique destinée à tous ceux qui n'ont pas le temps justement de flâner dans les rayons à seulement 11 jours de Noël. Expliquez-nous.
Oui, alors l'idée du pop-up, c'est de trouver facilement et rapidement le cadeau idéal. Alors pour cela, les libraires ont sélectionné eux-mêmes 450 coups de cœur, ce qui représente un tri assez conséquent puisqu'on propose 180 000 références à la librairie. Et par ailleurs, ils ont concocté 6 univers pour trouver le cadeau idéal en fonction des centres d'intérêt et des goûts de chacun. Donc par exemple, les libraires ont façonné un univers geek manga qui permettra de dénicher le livre qui pourra plaire à un passionné de jeux vidéo, de science-fiction ou de BD japonaise.
C'est cet univers qui marche le mieux ?
Alors, ça fait partie effectivement des univers qui fonctionnent bien, mais on a constaté aussi l'année dernière qu'un univers a beaucoup attiré, c'était l'univers original, c'est-à-dire que pour des personnes de notre entourage qui sont attirées par des cadeaux atypiques, décalés, surprenants, les libraires ont pu préparer une sélection tout à fait surprenante. Et parallèlement à tout ça, pour trouver facilement et rapidement le cadeau idéal, nous avons pré-empaqueté les livres, ce qui permet de faciliter le passage en caisse.
C'est-à-dire pré-empaqueté, c'est-à-dire que je me présente en caisse avec un bon d'achat, comment ça se passe, expliquez-nous.
Ah, pas du tout, en fait les livres sont déjà, les paquets cadeaux ont été réalisés en avance et on a mis en place un système d'étiquettes sans prix, avec une étiquette très discrète qui permet d'avoir juste le titre du livre et qui peut être très facilement retiré au moment de glisser le paquet cadeau sous le sapin.
J'imagine que tout ça simplifie grandement votre logistique.
Oui, effectivement. Donc, ça permet d'accueillir un grand nombre de personnes qui veulent rapidement trouver le cadeau idéal. Et en plus de ça, on a voulu proposer à notre clientèle de les surprendre en mettant en place un système de tickets d'or.
C'est-à-dire comme dans Charlie et la chocolaterie ?
Alors, effectivement, c'est un clin d'œil à Charlie et la chocolaterie. Donc, dans ces livres qui sont déjà empaquetés, on a dissimulé une centaine de tickets d'or. Et ces tickets d'or permettront à ceux qui les découvriront de remporter un cadeau offert par nos éditeurs partenaires du Pop-Up Mola.
Juste pour que nos auditeurs visualisent parfaitement, quand on rentre dans ce Pop-Up Store, c'est comme une librairie classique, est-ce qu'il y a tout de même des fiches de lecture pour nous conseiller ?
Alors, les libraires ont préparé plein de petits mots qui permettent de resituer l'univers du livre, ses qualités, et ça permet effectivement de faire un choix rapidement à l'aide de ces petits mots qui ont été rédigés par les libraires.
Vous aviez déjà ouvert cette librairie éphémère l'année dernière, non ?
Oui, tout à fait. C'est la deuxième année que nous mettons en place ce magasin éphémère. Et l'année dernière, l'idée avait germé avec la question de la jauge. Alors, la jauge n'existe plus cette année, mais le concept a tellement plu que nous avons décidé de renouveler l'expérience.
Mathilde Mola, on ne peut pas vous quitter avant d'avoir profité de votre expertise. Est-ce qu'il y a un livre que vous nous recommandez particulièrement ce matin, un cadeau qui ferait mouche à coup sûr ?
Alors c'est délicat parce que donc on a réalisé une sélection de 450 coups de cœur donc parmi les 180 000 références. Donc un livre particulièrement, ce n'est pas évident, mais en tout cas c'est vrai que en cette année 2021, il y a des très beaux catalogues d'exposition, notamment autour de la collection Morozov ou de Viviane Mayer. Et également, moi, il y a un roman qui m'a surprise récemment. Je me suis laissée porter par un livre d'une auteure argentine, Mariana Enriquez, Notre part de nuit. Et c'est un livre qui est aussi entre le thriller, le gothique et le réalisme magique. Et c'était un livre très, très hypnotique.
C'est noté. Merci beaucoup Mathilde Mola de nous avoir fait visiter le Pop-Up Mola. C'est son nom, la librairie éphémère à Bordeaux que ne manqueront pas de visiter tous ceux qui sont en panne d'aspiration pour leur cadeau de Noël. On vous trouve au 8 rue de la Vieille Tour. On vous souhaite de belles fêtes.
Merci à vous. À très bientôt.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h28, on jette Omblin un œil sur ce qui nous attend dans la prochaine demi-heure.
Et on va s'installer dans le coin lecture du studio en compagnie de Nicolas Carreau, âme sensible s'abstenir. Le coin culture ou Nicolas Carreau ?
Non, le coin
culture. Le coin culture est là-bas, Nicolas Carreau, il arrive, il est à la machine
d'accord.
À café.
Okay.
Il sera question de fantômes, de tables qui bougent dans le livre Apparition. À l'aide de documents rares et d'archives, Philippe Baudouin raconte les histoires d'une France hantée. La prescription culture dans 20 minutes, il faut rester là.
Mais avant cela, Omblin, l'actualité brûlante avec ce projet de loi relatif à la protection des enfants débattu aujourd'hui au Sénat.
Avec un amendement voté à l'unanimité par les députés l'été dernier qui interdit la séparation des fratries après des violences familiales, sauf si cela est contraire à l'intérêt de l'enfant. Le principe est donc que les frères et sœurs vivent sous le même toit, dans un même lieu d'accueil pour maintenir les liens familiaux. Si cela semble évident, eh bien la réalité aujourd'hui est tout autre. On sera dans un quart d'heure avec Isabelle Moret, la directrice générale de SOS Village d'Enfants.
La météo avec vous, Anissa Haddadi, il y a un mot ce matin, c'est le mot brouillard.
Oui, c'est le mot code, effectivement, qui va concerner beaucoup de personnes. On a vraiment beaucoup de brouillard hein, sur toute la moitié nord du pays, mais aussi jusqu'en Nouvelle-Aquitaine. Et même dans la vallée du Rhône, hein, seul le pourtour méditerranéen est épargné par ces brouillards. Alors attention, par endroits, ils sont très épais, la visibilité est réduite. Sur les côtes de la Manche, on a de la bruine. Hein, ce matin, ça va même durer toute la journée. En gros, vous coupez la France en deux au niveau de la Loire. Au nord de la Loire, c'est très, très gris. On a l'impression qu'il va faire nuit toute la journée. On a vraiment un plafond gris au-dessus de la tête. Et je suis désolée, Ombline. Et sur la moitié,
c'est mieux pour la sieste aussi.
Sur la moitié sud, là, c'est beaucoup plus ensoleillé. On a même un temps printanier hein, pour ce 14 décembre. Sur les sommets des Vosges, du Jura, des Alpes, du Massif central, des Pyrénées, c'est là que le soleil est le plus généreux hein, en montagne. Alors après les belles chutes de neige, là, on a un temps parfait. Il fait très beau sur toute la moitié sud. Sauf sur la vallée de la Garonne où là on a encore quelques brouillards tenaces. Les températures, il fait frais ce matin, moins 5 à Chambéry, moins 4 au Puy-en-Velay, moins 3 à Annecy, 0 degré à Toulouse, 1 degré à Lyon, 4 à Biarritz, 5 degrés à Paris, 8 à Brest et cet après-midi on va flirter avec les 20 degrés.
Et on embrasse par la même occasion Sophie qui nous écrit sur Twitter où elle nous dit qu'il fait 5 degrés ce matin à Reuilly, c'est dans l'Indre. Merci beaucoup Anissa Haddadi. Bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1, il est 5h30.
On se dit, est-ce que c'est normal de voir créer les conditions qui permettent à quelques-uns de suraccumuler pendant que de l'autre côté, il y a des gens qui ont des difficultés à accéder à la propriété.
L'immobilier, facteur aggravant des inégalités en France, constat dressé par l'INSEE et confirmé par cet investisseur. Un quart des Français possède 68% des logements et cet écart ne cesse de se creuser entre ménages aisés et plus modestes, surtout dans les métropoles. La crise sanitaire, le variant Omicron se répand très rapidement, constate le conseil scientifique. Pendant ce temps, dans certains villages, les médecins manquent. Reportage à Saint-Barthélemy de Deval, dans la Drôme, où l'unique praticien va bientôt fermer son cabinet. Et puis à Rouen, Napoléon va retrouver son socle sur le parvis de l'hôtel de ville. Une majorité des habitants a dit oui au retour de la statue sur sa place initiale.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h30, le journal vous est présenté par Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. On parle souvent de l'envolée des prix de l'immobilier. Cette hausse se fait au détriment des plus modestes. On s'en doutait un peu. Il suffit de regarder les annonces, notamment dans les métropoles comme Paris. On en a désormais la preuve avec les chiffres de l'INSEE. La politique des taux d'intérêt très bas a d'abord profité aux ménages les plus aisés. En France, l'essentiel du patrimoine se concentre dans quelques mains, Maud Descamps.
Oui, et pour cela, il suffit de regarder les chiffres de l'INSEE. Aujourd'hui, en France, 58% des ménages sont propriétaires et un quart de ces propriétaires détiennent plus de 60% des biens immobiliers. C'est ce qu'on appelle les multipropriétaires qui achètent pour ensuite louer leurs biens. Et ces multipropriétaires ont tendance à concentrer des biens immobiliers dans les zones les plus chères, comme le souligne l'investisseur et spécialiste de l'immobilier, Robin Rivaton.
On sait aujourd'hui que les gens qui ont plus de 20 biens tiennent 2,5% de la totalité du parc et que ce parc est surreprésenté dans les métropoles, donc là où il vaut le plus cher, où le mètre carré est le plus onéreux, et bien cette propriété interroge. On se dit, est-ce que c'est normal de voir créer les conditions qui permettent à quelques-uns de suraccumuler pendant que de l'autre côté, il y a des gens qui ont des difficultés à accéder à la propriété.
Ceux qui accèdent à la propriété sont majoritairement les plus de 40 ans et principalement des hommes. Là aussi, il y a des inégalités. Pour les propriétaires de 20 logements ou plus, 72% des hommes ont un droit de propriété contre seulement 50% pour les femmes.
Maud Descamps du service économie d'Europe 1.
Et puisque l'on parle finance, le Parlement adoptera demain le dernier budget du quinquennat d'Emmanuel Macron. Il consacre l'envolée des dépenses et le creusement des déficits.
Un budget 2022 qui laisse apparaître un trou de 153 milliards d'euros. Sans doute le prix à payer du quoi qu'il en coûte. La dette atteindra au moins 113% du PIB l'an prochain, à peine compensée par le très fort rebond économique enregistré au troisième trimestre cette année. La droite dénonce une frénésie dépensière et un projet de loi de finances dangereux pour l'avenir du pays.
Et nous ne sommes toujours pas sortis de la crise sanitaire. On en est même loin, si l'on en croit le conseil scientifique.
Le variant Omicron semble se répandre rapidement. C'est en tout cas le constat que dressent les autorités sanitaires. L'Organisation mondiale de la santé, de son côté, s'interroge sur l'efficacité des vaccins contre l'infection et la transmission. Prudente, l'OMS reconnaît toutefois qu'elle dispose de peu de données sur le sujet.
En attendant, il faut continuer à se vacciner, en tout cas ce que martèle le gouvernement.
À condition de trouver un médecin, notamment dans les petites communes éloignées des grandes villes et des grands centres hospitaliers. Dans la Drôme, département le plus touché par la pandémie, le village de Saint-Barthélemy de Val va perdre son seul praticien. Cet homme qui refuse de se faire vacciner fermera son cabinet le 31 décembre au grand désespoir des habitants. Reportage Jean-Luc Boujon.
Cabinet fermé, peut-on lire depuis le 15 septembre sur la porte d'entrée. Une situation qui, à partir du 1er janvier, sera définitive. Le docteur Raphaël Naville cesse son activité car il ne veut pas se faire vacciner.
Je ne suis pas anti-vax, mais petit à petit, je me suis fait une opinion qui était plutôt prudente vis-à-vis de ce vaccin. J'ai eu des cas d'effets secondaires graves dans ma patientèle qui sont directement imputables au vaccin, notamment au vaccin Pfizer. Pour moi, il y avait un risque qui est important, et peut-être plus important que ce qu'on nous laisse entendre habituellement. Donc j'ai arrêté de travailler. Ouais. Pour moi, c'est un véritable arrachement, ça me déchire. Quoi.
Une situation mal vécue aussi par un certain nombre de ses patients comme Jocelyne, alors que la Drôme affiche actuellement le taux d'incidence le plus élevé de France, avec plus de 1000 cas pour 100 000 habitants.
C'est quand même inadmissible de voir ça. Il est en première ligne, il faut quand même être vacciné pour un médecin, et je trouve que c'est quand même logique. À l'heure actuelle, ça monte encore, le virus, il court encore. Je ne sais pas comment on va faire, ça va être un peu galère. Hein.
Ludwig Montagne, le maire du village, a également du mal à encaisser le coup.
Dans le Nord Drôme, quand même une population assez conséquente, et un nombre de médecins qui est insuffisant. On commence à devenir un désert médical.
Un maire qui recherche donc en urgence un médecin pour exercer dans cette région, pourtant située à moins d'une heure de Lyon. Saint-Barthélemy de Valls, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
En Nouvelle-Calédonie, il faut maintenant organiser l'après-référendum et ce sera tout sauf simple.
Il faut notamment redéfinir le statut de l'archipel et son rapport à la métropole. 18 mois de discussions vont s'engager, mais il faudra convaincre les indépendantistes qui refusent de reconnaître leur défaite électorale. Un référendum marqué par une forte abstention. Si de nombreux Calédoniens ont déserté les urnes, c'est aussi parce qu'ils ont le sentiment qu'un vote ne changera rien à leur principal souci quotidien. Comment ne pas s'enfoncer un peu plus dans la pauvreté? Reportage de notre envoyée spéciale à Nouméa, Caroline Baudry.
Bah, qui baisse les prix.
Garé devant une enseigne de supermarché à bas prix, Marc n'a même pas regardé les résultats du référendum. Ce chômeur, père de deux enfants, résume la pensée de nombreux habitants.
Même si ça aurait été le oui ou le non, qu'est-ce que ça change vraiment pour nous, les Calédoniens?
La vie est extrêmement chère en Nouvelle-Calédonie, mais le RSA n'existe pas et le salaire minimum est de 200 euros inférieur à celui de la métropole. Alors les plus démunis se contentent d'une économie de survie, parfois en plein Nouméa.
Biscottes et du jus pour les gosses.
Le contenu du carton alimentaire qu'une association dépose à Jean-Pierre. Il vit dans un squat au milieu de la végétation, dans une habitation en bois et en tôle.
On n'a pas beaucoup les moyens aussi. Les seuls magasins qui vont dedans, c'est le Leader Price.
Impossible de faire ses courses ailleurs qu'au Leader Price, dit-il. Cette pauvreté n'est pas résolue, s'agace Philippe, ni par les trois référendums successifs, ni par les politiciens locaux.
Ils pensent qu'à eux, ils ne pensent pas au peuple. Et puis ils ne diminuent pas leur salaire à eux. Tous les politiciens, n'importe quel bord.
Défiance à laquelle est également confronté le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu. Ses rencontres avec les responsables calédoniens se poursuivent sur l'archipel. Nouméa, Caroline Baudry, Europe 1.
Aux États-Unis, les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver des survivants après la succession de tornades qui ont balayé le centre du pays. C'est dans le Kentucky où l'état de catastrophe majeure vient d'être déclaré que les dégâts semblent le plus important. Le bilan humain est très lourd, 88 morts et 109 disparus. La ville de Mayfield est presque entièrement détruite.
Retour en France avec la fin de ce feuilleton et même d'un début de polémique. À Rouen, Napoléon va retrouver son socle.
68% des Rouennais consultés se sont prononcés pour le retour de l'empereur sur le parvis de l'hôtel de ville. Cette question avait agité le débat entre les partisans de la culture de l'effacement, ce que l'on appelle le wokisme, et les détracteurs de cette idéologie. Thibaut Hu.
Après l'annonce des résultats, de nombreux élus de droite se sont réjouis de la décision des Rouennais. Parmi eux, Jonas Haddad, président de la Fédération des Républicains de Seine-et-Marne, rassuré que la statue ne bouge pas.
Je suis vraiment content, heureux que les Rouennais se soient mobilisés. C'est un véritable camouflet pour le maire de Rouen, pour lui aussi avoir, vous savez, son petit gadget woke. Certains ne veulent pas de sapin de Noël, d'autres interdisent le foie gras. Bah, lui, il voulait déboulonner Napoléon. En revanche, j'ai vu qu'il y avait une plaque qui allait être apposée pour expliquer le contexte. On sera tout aussi vigilants sur le contenu de la plaque. D'ailleurs, je me demande si elle sera en écriture inclusive ou pas.
Et après l'échec de la statue, le maire de Rouen, Nicolas Maillet-Rossignol, lui, change de stratégie. Pour féminiser l'espace public de Rouen, il va renommer des lieux moins symboliques.
On va amplifier notre programme de féminisation de l'espace public. On a tout un quartier, un nouveau quartier, qui n'aura que des noms de rues féminins.
En attendant, la statue de Napoléon devrait faire son retour sur son socle d'ici 6 à 9 mois à la fin de sa restauration.
Thibaut Hu, le football, PSG, Real Madrid et Chelsea, Lille, dans cet ordre, c'est le programme des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Tirage au sort, relevé lui aussi, est perturbé par un bug informatique qui a obligé l'UEFA à procéder à un deuxième tirage, un peu comme au loto. Match aller le 15 février pour les Parisiens, le 22 février pour les Lillois. Et puis le championnat du monde de handball, la France a largement dominé la Russie 33-28 hier. C'était le dernier match du tour principal. Les Françaises affronteront la Suède demain soir en quart de finale.
Et on leur souhaite évidemment bonne chance. Merci beaucoup Christophe Lamar pour ce journal. On passe aux courses. Les pronostics du quintet avec vous Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien. C'est sur l'hippodrome de Pau que se disputera ce quintet. Une course de haie handicap qui réunira 16 chevaux, tous âgés de 4 ans, avec un bon favori. Le numéro 4, Être Rouge. Facile lauréat le 4 décembre en steeplechase sur cette piste paloise et qui, sur sa lancée pour son retour sur les haies, me paraît capable de doubler la mise. On lui opposera les numéros 7, 6-1, ayant déjà fait l'arrivée d'un quintet similaire le 7 septembre à Auteuil, 10, Hirson, vraiment bien placé au poids pour son premier handicap, et 12, Highliner Great, qui après une sage course de rentrée le 14 novembre à Auteuil, après 8 mois d'absence, devrait cette fois montrer un tout autre visage. Enfin, les numéros 3, Prince des Valois, 2 Baronne du Berlay, 8 Jolie Héritière et 14 Eximia ont eux aussi quelques arguments qui peuvent leur permettre d'accrocher une place à une cote spéculative. Mon pronostic, 4, 7, 10, 12, 3, 2, 8 et 14.
Et si vous n'avez pas eu le temps de tout noter, rendez-vous sur europe1.fr où les pronostics y sont dès maintenant. Merci Thierry Léger et à demain.
Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York.
L'abolition de la peine de mort en France.
Europe 1. Et à 6h20, c'est le jour où les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe 1.
C'est la toute première conférence internationale aujourd'hui sur la santé publique en Afrique. Bonjour Pauline Jacquot.
Bonjour Ombline, bonjour Julien.
Construire ensemble un nouvel ordre de santé commun, c'est l'objectif des pays africains à travers cette conférence. Lutter contre le Covid-19, déployer les vaccins, renforcer les systèmes de santé. L'Afrique tente, tant bien que mal, de combattre la pandémie aujourd'hui. Et en 2014, Pauline, c'était un autre virus qui semait la panique en Afrique de l'Ouest. Retour avec vous sur la terrible épidémie du virus Ebola.
À Conakry, les habitants portent des masques. Le virus touche désormais les villes. La capitale de la Guinée, Ebola, n'est plus une maladie de brousse. Nous sommes en mars 2014. Le pays annonce officiellement l'épidémie. Mais déjà, le Libéria, la Sierra Leone sont touchés. Ebola va vite, très vite. Au Nigeria, en RDC, les morts se multiplient. La peur s'empare de la région. Gwendoline Debono est l'envoyée spéciale d'Europe 1 à Monrovia, la capitale du Libéria. Elle raconte depuis un centre de traitement Ebola.
On n'a pas assez de lits, pas assez de temps, confie le volontaire. Une ambulance fonce à toute vitesse, tout le monde s'écarte et s'asperge de chlore. Ici, Ebola contamine aussi les esprits. Chinasal sait bien, lorsque le virus emporte son mari, une quarantaine lui est imposée et peu importe qu'elle soit sur le point d'accoucher.
Tout le monde avait peur de moi, personne ne m'acceptait. J'ai pu accoucher dans une maison voisine, mais pas à la clinique.
Les images des soignants en tenue blanche de cosmonautes font le tour du monde. Les médias égrènent les symptômes. Fièvre, douleurs musculaires, vomissements, diarrhée, hémorragie. La maladie se transmet par le sang, la sueur, la salive. Selon l'OMS, l'épidémie serait partie du sud de la Guinée en décembre 2013. C'est un jeune garçon qui aurait mangé de la viande contaminée.
L'OMS, Pauline, qui déclare Ebola urgence de santé publique internationale.
L'Organisation mondiale de la santé est critiquée depuis le début de l'épidémie. Pas assez réactive, pas assez responsable. Lorsqu'elle prend la parole en août 2014, Ebola a déjà tué plus de 1000 personnes en Afrique de l'Ouest.
Ebola, c'est quelque chose qu'on connaît. On sait exactement ce qu'il faut faire. Et il faut vraiment que la communauté internationale aussi apporte une contribution à ce qu'on ait assez de moyens pour appliquer ces mesures.
2400 morts un mois plus tard, un vent de panique sanitaire souffle sur les États-Unis, sur l'Europe. Une pétition circule parmi le personnel d'Air France pour ne plus se rendre dans les pays infectés. Bernard Kouchner met en garde.
Il n'y a aucun danger à atterrir dans un aéroport moderne et aller vers un hôtel moderne aussi pour attraper Ebola. Ne stigmatisons pas les pays. Ce ne sont pas des pays parias, ce sont des pays qui n'ont pas de chance pour le moment et qui s'en sortiront.
Mais c'est à ce moment-là, Pauline, en 2014, il n'y a aucun vaccin contre Ebola.
Non, pourtant le virus avait été détecté 40 ans auparavant dans un pays qui s'appelait encore le Zaïre en 1976. Sur les rives du fleuve Congo, les malades saignent, Ebola tue des dizaines de personnes. Un retard expliqué en 2014 par Gilles Pialou, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Tonon.
La Guinée, la Sierra Leone et le Libéria, c'est des pays extrêmement pauvres, avec très peu d'investissements internationaux là-dedans. Je pense qu'il y a quand même trois pays qui ont des responsabilités parce qu'ils ont une histoire avec ces pays-là. C'est l'Angleterre pour la Sierra Leone, l'USA pour le Libéria et la France pour la Guinée. Et je crois que ces trois pays, enfin je ne veux pas donner de conseils politiques, hein, mais ces trois pays devraient être plus concernés par ce qui se passe là-bas actuellement.
Un an plus tard, en 2015, un vaccin sera finalement mis au point. Il a largement contribué à contrôler la maladie, notamment en République démocratique du Congo l'an dernier, où le vaccin a stoppé la propagation du virus Ebola.
Merci Pauline Jacquot. C'était le jour où. Il est 5h44. Dans un instant, le projet de loi pour une meilleure protection des enfants placés qui arrive au Sénat aujourd'hui.
Ombline Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Il est 6h15 sur Europe 1. Très bon début de matinée avec nous. C'est à partir d'aujourd'hui que le Sénat examine le projet de loi relatif à la protection des enfants adopté par l'Assemblée nationale en juillet dernier. Et parmi les mesures phares qui vont être discutées tout à l'heure, l'interdiction de séparer des frères et sœurs placés après des violences familiales. On en parle en ligne avec la directrice générale de l'association SOS Village d'Enfants.
Bonjour Isabelle Moret.
Bonjour à vous.
SOS Village d'Enfants est l'un des grands acteurs de la protection de l'enfance. On va parler de votre association, mais d'abord, aujourd'hui, en France, on sépare des frères et des sœurs lorsqu'ils sont placés et séparés de leur famille. Cette mesure est donc une nécessité.
C'est une nécessité parce que aujourd'hui, l'accueil conjoint des frères et sœurs n'est pas encore suffisamment présent dans la loi. Et par ailleurs, les structures pour accueillir les frères et sœurs ne sont pas assez nombreuses en France. Donc cet article dans la loi est vraiment une très bonne chose.
Vous refusez, hein, ça c'est le principe d'SOS Village d'Enfants, vous refusez la séparation des fratries. Comment fonctionne votre association SOS Village d'Enfants ?
Alors SOS Village d'Enfants, c'est une association qui, depuis 65 ans, accueille des frères et sœurs qui ont été placés parce que un des piliers de l'association, c'est de dire que quand on a eu la difficulté dans sa vie d'être séparé de ses parents, il est important de pouvoir quand même continuer à vivre avec ses frères et sœurs et que la possibilité de partager une vie quotidienne avec ses frères et sœurs, ça donne la possibilité de capitaliser sur cette ressource fraternelle.
Alors de quel type de fratrie parlons-nous pour que ce soit clair ? Il ne s'agit pas d'un frère ou d'une sœur, ils sont plusieurs en général.
À partir du moment où il y a un frère et une sœur, on est vraiment dans une fratrie. Hein, donc
oui.
On parle là d'une fratrie de 2, de 3, de 4 et parfois de beaucoup plus. Hein, on peut accueillir dans les villages d'enfants des fratries jusqu'à 12 frères et sœurs. Donc là, la palette est grande. Des situations de fratrie.
Alors un texte, c'est important, hein, bien sûr. Et puis l'idée fait consensus. Ce texte a d'ailleurs été voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Mais qu'en est-il des moyens ? Vous le disiez, il n'y a pas assez de structures en France ?
Alors oui, je pense que l'ensemble du secteur se réjouit et salue vraiment cette avancée prévue dans ce texte. Par contre, ce que nous disons, parce qu'on le voit au quotidien, il manque de structures pour accueillir ces fratries. Et donc ce qu'on demande vraiment au-delà de cette première avancée, c'est que vraiment les départements, qui sont les chefs de file de la protection de l'enfance, puissent maintenant œuvrer pour développer une offre de prise en charge pour ces fratries. Et donc là, on a besoin d'aller encore plus loin et de continuer sur cette lancée, donc avec des structures et aussi en développant une expertise sur les relations fraternelles et une formation des professionnels sur vraiment l'accueil conjoint des fratries.
Oui, on parle des structures, mais il faut aussi des éducateurs.
Tout à fait, c'est pour ça que je vous parle de formation. Il faut vraiment être formé et avoir des bases pour vraiment bien accompagner ces fratries. C'est pourquoi on en appelle à la formation, à la fois des professionnels qui travaillent dans les services de l'aide sociale à l'enfance, donc le service gardien, et également les éducateurs qui accompagnent au quotidien ces fratries dans les structures. Donc c'est vraiment important de poursuivre cette dynamique sur ce sujet-là.
Vous vous trouvez dans la situation de refuser des enfants par manque de structure, de maisons d'accueil, de villages aujourd'hui. C'est une situation à laquelle vous êtes souvent confrontée ?
Alors c'est au quotidien, oui, qu'on est confronté à cette situation parce que des structures qui permettent réellement aux frères et sœurs de partager un quotidien, c'est-à-dire chaque jour d'être accueillis, d'être accompagnés dans une maison et de partager le réveil, les repas, le coucher, il en existe assez peu. Donc on est chaque jour sollicité pour prendre en charge ses enfants. Donc il manque vraiment de structure, même si au cours des dernières années, il y a eu des avancées dans certains départements avec des appels à projets pour la construction de nouvelles structures comme des villages d'enfants. Il faut poursuivre parce que 155 000 enfants placés en France On sait que dans ces chiffres, il y a beaucoup de fratries et donc c'est beaucoup de places qui sont nécessaires. Alors, même si pour toutes les fratries, l'accueil conjoint n'est pas toujours nécessaire, même parfois l'accueil conjoint ne doit être proposé que quand c'est dans l'intérêt de l'enfant. Donc il faut vraiment faire attention à cette question-là. Mais pour autant, il y a quand même beaucoup d'enfants pour lesquels il y a vraiment un intérêt de grandir avec ses frères et sœurs. Donc il faut continuer à développer l'offre de prise en charge avec des villages d'enfants, mais aussi avec d'autres possibilités, hein, des familles d'accueil qui peuvent accueillir des fratries, des structures plus collectives aussi qui pourraient accueillir des fratries. Il faut vraiment un panel de propositions pour l'accueil des fratries.
Parce que vous constatez, vous, au quotidien, et puisque vous suivez ces enfants sur la durée, des résultats concrets lorsque ce lien familial entre frères et sœurs est maintenu.
Oui, on le voit, parce que, je vous le disais, l'association a 65 ans et depuis 65 ans, même à une époque où l'accueil conjoint des fratries n'était vraiment pas à la mode, entre guillemets, ça fait nous 65 ans qu'on le fait, donc on se rend compte à quel point de grandir avec ses frères et sœurs, ça permet de tisser vraiment des relations de qualité. Et c'est vraiment une ressource pour tous ces enfants, à la fois au moment du placement, mais aussi au moment où ils deviennent adultes, quand il y a des coups durs, quand c'est parfois difficile, mais aussi quand il y a des joies à partager. Ces jeunes ont très peu de ressources familiales, et donc c'est les frères et sœurs qui leur permettent vraiment d'être en lien et de trouver un appui pour grandir et s'insérer dans la société.
Merci beaucoup, Isabelle Moret, d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Je rappelle que vous êtes la directrice générale de l'association SOS Village d'Enfants. Merci, bonne journée.
Merci, au revoir.
Europe Matin,
Ombline Roche et Julien Pierce.
Il est 6h10 sur Europe 1, le journal permanent, Alban Le Prince.
Alerte tsunami en Indonésie après un séisme de magnitude 7,3 ce matin à 4h20 à l'est du pays. Des vagues dangereuses sont possibles le long des côtes dans un rayon de 1000 km autour de l'épicentre. Limiter le nombre de convives à table, dose de rappel, aération régulière et autotest le jour même à 10 jours du réveillon de Noël. Voici les préconisations du conseil scientifique alors que la cinquième vague de Covid frappe la France. Une première pour un ancien ministre de l'Intérieur, Claude Guéant, incarcéré à la santé. La justice estime qu'il ne respecte pas les obligations d'une condamnation de 2017. Son avocat annonce son intention de demander un aménagement en raison de son état de santé.
Le mardi, dans votre prescription culture, c'est littérature avec le monsieur livre d'Europe 1, Nicolas Caro. Bonjour Nicolas.
Bonjour Ombline, bonjour Julien.
Bonjour Nicolas. Alors ce matin, vous vous êtes transformé en chasseur de fantômes. Et ça, c'est la musique du film Ghostbusters.
Exactement. Chasseur de fantômes, c'est un peu le métier de Philippe Baudouin. Traquer les spectres et les ectoplasmes, ou plutôt s'intéresser à ceux qui les cherchent. Philippe Baudouin, c'est quelqu'un de très sérieux, historien, philosophe, maître de conférences à l'UIT de Cachan. Mais sa marotte, qui est devenue une expertise, ce sont les phénomènes paranormaux. Le surnaturel, le spiritisme et autres poltergeists. Il vient de publier son nouveau livre sur le sujet, Apparition, les archives de la France hantée, chez Ehebec.
Et ce sont des témoignages de phénomènes inexpliqués ?
Pas seulement, ce sont des documents officiels, des procès-verbaux des autorités judiciaires, mais aussi des enquêtes scientifiques qui s'intéressent à des phénomènes qui ont eu lieu en France au 19e et 20e siècle. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un livre amusant sur des témoins de bonne foi ou des olibrius qui croient au surnaturel. Ce sont des enquêtes des vrais, de gens qui prennent ces apparitions au sérieux et avec beaucoup d'ouverture d'esprit, mais sans non plus abandonner toute raison et qui se penchent dessus. C'est le cas de scientifiques comme Camille Flammarion, célébrissime à la fin du 19e siècle, ou Pierre et Marie Curie, excusez du peu, Philippe Baudouin.
Il y a une grande porosité, en fait, que j'ai constatée, surtout à la fin du 19e siècle, entre le monde scientifique et le monde de l'occultisme. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup moins de frilosité, notamment de personnalités de renom. Il y a des tentatives d'appliquer des méthodes classiques expérimentales dans le domaine des sciences, de les appliquer dans le domaine des phénomènes incompris, inexpliqués, ou des phénomènes occultes, comme on les nomme à l'époque.
Et par exemple ?
Eh ben Camille Flammarion organisait chez lui des séances de tables tournantes et volantes. Par exemple, il a publié un livre qui s'appelle « Les habitants de l'autre monde ». Et Pierre et Marie Curie, eux, étaient passionnés par les forces invisibles. Et c'est logique, leur objet d'étude, c'était les radiations des forces invisibles. Ils travaillent sur le spiritisme aussi. Ils assistent à des phénomènes, ils en reproduisent en laboratoire, etc. Il y a d'ailleurs des photos de certaines expériences dans le livre, parce que c'est aussi un beau livre, grand format, avec des documents incroyables. Des documents de police aussi. Philippe Baudouin.
Très souvent, on trouve des documents officiels, et c'est ça qui fait l'intérêt de ces récits. Des hommes de loi, je pense au gendarme Tisanet, qui va rédiger des dizaines et des dizaines de procès-verbaux, se procurer également des documents juridiques, des documents de police, des dossiers de police, sur des phénomènes qui sont à milieu de tout ça. Et on voit effectivement dans les procès-verbaux le témoignage direct des gendarmes ou de cet officier qui vont avoir l'occasion, ici et là, d'assister eux-mêmes directement à des phénomènes inexpliqués.
Le gendarme Tisanet, Nicolas.
Oui, passionné de ces phénomènes, il enquêtait et dans le livre, on trouve le brouillon de son enquête sur l'homme invisible, par exemple, les photos d'une maison hantée, des plans, des tentatives d'explication. Et puis, il y a des apparitions très connues, comme celle de la Vierge à Bernadette Soubirous, à Lourdes. Mais ce qui est moins connu, c'est l'enquête du commissaire local, le commissaire Jacomet, qui essaye de faire la lumière sur cette affaire qui est en train de prendre des proportions incroyables. Il y a aussi les fantômes de Versailles, la croix lumineuse de Migné, il y en a à la pelle de ces histoires de dingue, mais à la lumière donc de l'investigation. Et en plus du livre, Philippe Baudouin est aussi commissaire d'une exposition en ce moment, Fantographie, images et traces de l'invisible, à Paris jusqu'au 29 janvier.
Donc apparition, les archives de la France hantée. Donc merci beaucoup Nicolas Carreau. Excellente matinée avec nous sur Europe 1, 5h55.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
5h57 sur Europe 1, nous sommes le mardi 14 décembre. Dans un instant, la météo, le journal et un compte à rebours.
Qui vient de s'enclencher. Nous sommes à tout juste 10 jours du réveillon de Noël, un événement que nous ne voulons manquer pour rien au monde, car le réveillon, c'est la famille, ce sont les retrouvailles autour d'un dîner de fête. Sauf que depuis 2 ans, un intrus s'invite à table, le Covid, ce fichu virus qui nous épuise. Comment faire en sorte qu'il ne gâche pas ce précieux moment pour que papy et mamie n'aient pas à rester dans la cuisine ou pire chez eux? Eh bien, c'est maintenant que tout se joue, qu'il faut réduire au maximum ses contacts. C'est la recette d'un réveillon réussi. On la détaille dans une dizaine de minutes avec le professeur de médecine Alexandre Mignon. On écoutera ensuite, Omblin, votre partition.
Il disait, je cite, « J'ai une très grande tendresse pour l'Olympia. Je l'ai déflorée, si j'ose dire. Cette salle a des dimensions humaines. On peut encore y faire des clins d'œil. »
La place se roule, j'étais vite. Devant moi marchait Nathalie.
Gilbert Bécaud et son histoire avec la salle de spectacle parisienne dans 20 minutes. J'ai envie de dire l'histoire d'amour.
La place se roule.
Alors la météo aujourd'hui, Anissa Haddadi, c'est pas réellement une histoire d'amour, c'est une histoire 50-50, on va dire 50-50, une France coupée en deux.
Oui, au nord de la Loire, comme hier, on a un temps gris, brumeux toute la journée. Attention ce matin, de la Bretagne jusqu'à la Nouvelle-Aquitaine, on a beaucoup de brouillard par endroits très épais. C'est pas facile sur la route ce matin dans le nord-ouest, sur les côtes de la Manche. Et de la mer du Nord, on a de la bruine toute la journée. Sur la moitié sud, comme hier, on a une journée très ensoleillée, limite printanière. Avant l'arrivée du soleil, il va falloir être un petit peu patient et faire attention. À la vallée du Rhône, on a des brouillards aussi ce matin. En montagne, c'est grand soleil. Et attention, les Pyrénées-Atlantiques et les Landes sont toujours en vigilance orange cru. On a un grand contraste des températures. On a moins 5 à Chambéry, on a 8 à Brest, moins 4 à Briançon, 6 degrés à Lille, moins 2 à Aurillac, 5 à Paris. Et 1 degré à Lyon et Montpellier, 3 à Strasbourg. Voilà, c'est très grand.
Belle amplitude, effectivement. Merci beaucoup, Anissa Haddadi. Vous écoutez Europe 1. Nous sommes le mardi 14 décembre. Très bon réveil, il est 6h. Terminé le train-train quotidien sur nos rails, les wagons couchettes font leur grand retour en Europe. Le train Vienne-Paris termine son premier voyage ce matin à Paris. Aurélien Fleureau était à bord. Reportage dans un instant. L'alerte du Conseil scientifique sur la propagation très rapide d'Omicron en France. Au Royaume-Uni, Boris Johnson annonce de nouvelles restrictions. Un Premier ministre fragilisé face à la fronde de son propre camp. Notre correspondante à Londres nous expliquera pourquoi. Et puis des élus du Périgord prennent la plume pour défendre le foie gras, une spécialité du Sud-Ouest bannie par certaines mairies écologistes. Ces députés redoutent la perte d'un savoir-faire. Vous les entendrez.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 6h le journal, c'est Romain Oquet. Bonjour Romain.
Bonjour à tous. Le train de nuit repart sur les rails de l'Europe. La ligne Vienne-Paris ouvre le bal aujourd'hui. Départ hier soir dans la capitale autrichienne. Arrivé ce matin à Paris. 14 heures de voyage raconté par Aurélien Fleureau. Il a passé la première nuit à bord. Reportage.
Dans ces trains qui appartiennent à la compagnie autrichienne OBB, les Nightjet, vous avez 3 niveaux de confort. Des compartiments assis, des couchettes et des cabines privatives, dont certaines avec douche. De quoi attirer une clientèle variée et créer un modèle économique, selon Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs.
C'est la bonne liaison pour faire le test, pour voir si des Européens sont prêts
et effectivement à changer de mode de transport. Le train de nuit, c'est la bonne réponse, aussi bien pour les jeunes que pour le business.
Vienne, Rome, Zurich, Hambourg ou encore Munich, Venise, les trajets existants attirent ceux qui recherchent une nouvelle manière de voyager, comme le constate Ibrahim, responsable de voiture.
La dernière fois, j'ai croisé l'évêque de la grande cathédrale de Vienne. On croise aussi des politiciens qui préfèrent prendre le train, des sportifs, surtout des équipes de foot aussi, les étudiants. On en croise aussi surtout pendant la période d'été.
14 heures de trajet, des tarifs qui vont de 29 à une centaine d'euros selon le confort. Arrivée prévue 9h40, gare de l'Est à Paris, après un arrêt à Strasbourg.
Le reportage d'Aurélien Fleureau que l'on retrouvera en direct pour la suite de son voyage dans le journal de 7h30. Le train couchette espèce en voie de disparition ressuscité par la SNCF. Une dizaine de lignes nationales sont prévues d'ici 2030 avec déjà Paris-Lourdes et Paris-Briançon inaugurés dimanche.
Et puisqu'on parle de rail, attention au préavis de grève déposé par 3 syndicats dont la CGT pour le week-end prochain, le premier des vacances de Noël. La circulation pourrait être fortement perturbée sur l'axe sud-est.
Une propagation extrêmement rapide. Voilà à quoi il faut s'attendre pour Omicron en France. C'est la mise en garde du Conseil scientifique dans un avis publié hier. Le variant pourrait même devenir majoritaire dès les premières semaines de janvier.
Et majoritaire, il l'est tout presque à Londres, au Royaume-Uni. Là-bas, Omicron est responsable de 40% des nouvelles contaminations.
Le variant qui a déjà fait une première victime annoncée hier par Boris Johnson. Le Premier ministre britannique se prépare, je cite, à un raz-de-marée. Il a ordonné une accélération de la campagne de rappel ainsi que de nouvelles restrictions qui doivent être votées aujourd'hui par le Parlement. Le reportage de notre correspondante à Londres, Anaïs Cordoba.
Boris Johnson, qui a toujours écarté le pass sanitaire, l'impose finalement pour les événements de plus de 500 personnes. Autre nouvelle restriction, le télétravail et le port du masque obligatoire en intérieur. Des mesures qui rassurent ces Londoniens inquiets de la propagation du variant Omicron.
Ces mesures arrivent presque trop tard. J'espère que le pass sanitaire va encourager les gens à se faire vacciner.
Omicron se propage à une telle vitesse. Nous devrions imposer plus de restrictions.
Environ 70 élus conservateurs opposés au pass sanitaire, eux, menacent de voter contre. Une rébellion inédite contre Boris Johnson, alimentée par ce nouveau scandale. Plusieurs fêtes de Noël auraient eu lieu à Downing Street l'an dernier, en plein confinement. Ces révélations qui lui ont fait perdre 11 points dans les sondages ont choqué les Britanniques comme Anne.
C'est très décevant, mais si le gouvernement ne fait pas ce qu'il faut, alors nous devons le faire et être responsables pour nous, nos familles, nos amis et nos collègues.
Et hier, Boris Johnson n'a pas exclu la possibilité de durcir encore plus les restrictions d'ici Noël. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Il est 6h passé de 4 minutes pardon, en France. Et si vous habitez dans les Alpes-Maritimes ou dans le Var, vous avez probablement déjà aperçu des montagnes de gravats, de ferrailles sur le bord des routes, des décharges sauvages illégales qui ont pollué au moins une vingtaine de sites dans ce territoire.
7 salariés et 10 entreprises du bâtiment comparaissaient justement devant le tribunal correctionnel de Draguignan. Le jugement est attendu à 14h avec une attente, Louise Salé, que ce procès serve d'exemple.
Oui, les parties civiles s'accordent à dire que ce procès est inédit et donc exemplaire. Anne Rock, juriste, a suivi l'affaire pour France Nature Environnement.
On s'attend donc à des sanctions lourdes, dissuasives, notamment à des mesures de remise en état des sites qui peuvent coûter très très cher aux prévenus.
L'objectif est de montrer que le déversement illégal des déchets est lourd de conséquences. La restauration des sites, à laquelle les prévenus pourraient contribuer, est évaluée à plus de 5 millions d'euros. Mais l'autre attente de ce procès, c'est d'inciter à exiger et vérifier tout passage en déchetterie légale. Frédéric Soulier dirige l'Union des industries de carrière et de matériaux de construction pour la région PACA.
Aujourd'hui aussi, ce qu'on attend, c'est que on va dire, l'État, la région, les départements, les gros promoteurs, que ce soit Vinci Construction, Bouygues Construction, dans leurs appels d'offres, cette traçabilité et d'imposer qu'effectivement, dès le départ, on dise dans quel endroit certifié on puisse déposer ces déchets-là et pour qu'on dise attention maintenant, si vous ne faites pas les bonnes choses, ben vous serez sanctionné et puni.
En PACA, le volume de déchets du BTP qui finissent chaque année dans la nature est estimé à près de 3 millions de tonnes.
Louise Salé du service Société d'Europe 1. C'était une amitié, pas une relation sexuelle ni amoureuse. Monseigneur Aupetit se défend ce matin dans les colonnes du Parisien. L'ancien archevêque de Paris avait démissionné la semaine dernière après des soupçons sur sa vie sentimentale. Des révélations portées par le magazine Paris Match. Monseigneur Aupetit annonce porter plainte pour diffamation.
J-10 avant Noël et c'est l'heure de réfléchir à votre repas de fête avec ou sans foie gras. Plusieurs mairies écologistes, Lyon, Grenoble ou encore Strasbourg, Strasbourg ont décidé de bannir cette spécialité du Sud-Ouest de leurs réceptions officielles au nom du bien-être animal.
Et cette décision passe mal au pays du foie gras, justement le Périgord. 56 élus de la région expriment, je cite, leur consternation dans une tribune. Une initiative de Jean-Pierre Coubertin-Font, ce député Modem défend le savoir-faire des producteurs.
On gave les oies depuis des millénaires, hein. Il a toujours existé et franchement il n'est pas question de le remettre en cause. Les éleveurs prennent de grandes précautions pour pas que l'animal souffre. Moi je rentre de l'étranger, quand je dis que je suis du Périgord, bien on me dit ah oui c'est le pays de la truffe, c'est le pays du foie gras. Ce sont d'excellents ambassadeurs pour nous ces produits, ça fait partie du patrimoine culturel et c'est un symbole de la fête, c'est un symbole des réunions familiales, donc on peut pas laisser tout passer quand même.
Jean-Pierre Coubertin-Font, député Modem de Dordogne, joint par Thibault Huy pour Europe 1.
Et c'était le journal de Roman Oquet, journal délicieux. Merci beaucoup Roman, comme du foie gras,
voilà, exactement.
On passe au sport.
Oui.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
6h07, le journal des sports de Martin Lange et la Ligue des champions et des clubs français pas gâtés au tirage.
Oui, tirage au sort qui a tourné au fiasco hier en Suisse hein, après un premier tirage entaché d'erreurs. L'UEFA a été obligée d'en effectuer un second du jamais vu. Finalement, le PSG hérite du Real Madrid qui écrase actuellement la Liga. Tandis que pour Lille, c'est le pire adversaire possible, le champion d'Europe en titre, Chelsea. Mais le président nordiste Olivier Létan ne s'avoue pas vaincu.
Vous savez, vous jouez en 8e de finale de Champions League, donc vous savez que votre adversaire, il va être de qualité. Hein. Après, on est, nous, très heureux de jouer justement le tenant du titre. Ça va nous permettre effectivement de nous étalonner. Voilà, avec un Chelsea qui sera le grandissime favori, nous serons le petit poussé.
En Ligue Europa Conférence, Marseille connaît aussi son adversaire pour les barrages. Ça sera les Azeris de Karabakh. Enfin, deux infos en bref pour clore cette page foot. Une star à la tête de la fédération camerounaise, Samuel Eto'o, ancien attaquant du Barça, a été élu président hier. Et puis en parlant du Barça, une de leurs stars va prendre sa retraite. L'Argentin Sergio Aguero, victime d'un problème cardiaque, devrait annoncer sa fin de carrière demain.
JO 2024, Martin, on en sait plus sur la cérémonie d'ouverture.
Oui, elle aura lieu sur la Seine, en plein Paris, un événement inédit puisque jamais une cérémonie ne s'était déroulée hors d'un stade. Une nouveauté accueillie avec enthousiasme par les sportifs à l'image du nageur Florent Manaudou.
J'ai envie que ce soit dans 6 mois, mais malheureusement, il va falloir attendre 2 ans et demi, mais voilà, de voir une cérémonie au cœur de Paris, de pouvoir utiliser tous les monuments, la Seine, les toits de Paris, je trouve ça incroyable. C'est une ville, une des plus belles villes du monde, donc voilà, j'ai hâte de voir cette cérémonie d'ouverture et d'y participer.
Rendez-vous le 26 juillet 2024 pour cette cérémonie. 6000 personnes y sont attendues.
Un mot de handball.
Oui, et les Bleus reçus 6 sur 6 au Mondial. Victoire hier contre la Russie, 33 à 28. Invaincus, les joueuses d'Olivier Crumble s'affronteront la Suède en quart de finale demain.
Enfin, Martin dit OK pour terminer.
Oui, et Rouen aux portes de l'exploit. Les Normands reçoivent les Finlandais de Tampere pour une place en demi-finale de la Ligue des Champions. Ce serait une grande première pour un club français.
Du hockey sur glace, bien sûr.
Évidemment.
Merci Martin, c'était le journal des sports de Martin Lange.
Restez avec nous dans un instant, on lance l'opération Réveillon. 10 jours pour que le Covid ne s'invite pas au menu. C'est maintenant que ça se joue. On voit cela dans un instant avec le professeur de médecine Alexandre Mignon. A tout de suite.
5h, 6h30. Europe Matin.
Bon début de matinée, il est 6h10. Sur Europe 1, votre invité Julien est anesthésiste réanimateur à l'hôpital Bichat à Paris.
Bonjour Alexandre Mignon.
Bonjour.
Merci professeur d'être en ligne avec nous ce matin à 10 jours très exactement du réveillon de Noël. Réunion familiale par excellence que nous sommes nombreux à attendre mais qui va pour la deuxième fois consécutive se dérouler sous la menace Covid. Voilà pourquoi Olivier Véran a appelé ce week-end les Français à réduire au maximum à partir d'aujourd'hui leurs interactions sociales. C'est vraiment maintenant que se joue la sérénité des vacances de Noël ?
C'est maintenant que ça se joue et il faut donner une note très positive parce qu'il y a une grande différence avec l'année dernière, c'est qu'on est vacciné. Oui. Alors malheureusement, il reste encore quelques irréductibles non vaccinés et puis tous ceux qui n'ont pas encore reçu mais qui se pressent pour la troisième dose, mais les choses sont totalement différentes. Il faut rester très positif.
Le vaccin, en revanche, n'empêche pas la transmission du Covid. Ça veut dire que pendant ces 10 jours, il faut qu'on essaie de se mettre dans une bulle.
pas dans une bulle, mais disons, il faut être raisonnable. La première chose, pour les plus jeunes notamment, on le sait, les enfants et les adolescents qui sont asymptomatiques, mais qui sont les plus touchés et qui transmettent le plus, c'est vérifier que quand ils vont voir papy-mamie sont vaccinés, ont reçu les 3 doses, et dans la mesure du possible, éviter des contacts extrêmement rapprochés. Voilà. Après, pour le reste, c'est faire preuve d'un peu de jugeote, c'est-à-dire effectivement, comme l'a rappelé le ministre, toujours insister sur les mesures barrières, essayer de limiter un peu les interactions sociales et éventuellement, quand on est un peu dans le doute, se tester pour ces périodes-là qui sont des périodes à risque. Mais je vous rappelle que l'année dernière, on avait beaucoup d'inquiétudes sur les réveillons et dans les jours qui ont suivi, les semaines qui ont suivi, on n'avait pas vu de catastrophe redoutée.
Les Français avaient effectivement été très responsables, sauf qu'on n'avait pas le vaccin, comme vous l'avez déjà rappelé à l'époque. On n'avait pas ce sentiment éventuellement de...
D'impunité. Enfin, en tout cas de protection. Mmh. Oui, c'est vrai. Mais honnêtement, il faut bien rappeler les choses. Un, on est aujourd'hui en France toujours avec le variant Delta. On fait beaucoup de bruit autour de l'Omicron. L'Omicron, pour l'instant, n'est pas présent ou quasiment pas. Il va arriver, c'est évident, mais il n'est pas encore...
C'est ce que dit le conseil scientifique. Il dit qu'il va devenir majoritaire dès les premières semaines de janvier.
Oui, parce qu'il
l'est déjà à Londres.
Il est très infectieux. C'est-à-dire qu'en gros, la différence du Delta, qui fait 99% ou plus des infections actuellement sur notre territoire, quand il contacte nos cellules, il rentre plus facilement à l'intérieur et donc il est plus contagieux. Mais pour l'instant, parlons que du Delta. Et le Delta, la bonne nouvelle, c'est que les vaccins marchent très très bien et qu'avec une troisième injection de rappel, dès la 48e heure, vous avez un boost sur l'immunité qui fait que vous êtes quand même très bien protégé. Ce qui n'exclut pas, effectivement, qu'il reste quelques personnes qui ne sont pas vaccinées. Il faut les chercher et les convaincre. Il reste la possibilité, malheureusement, que le vaccin, on le sait maintenant, s'épuise dans le temps. Et donc, alors que vous pensez être protégé, finalement, votre immunité a commencé à baisser. Et vous, dans un premier temps, vous risquez d'être contaminé, transmettre.
Justement, professeur, l'Agence européenne du médicament préconise d'abaisser de 5 à 3 mois le délai pour recevoir sa dose de rappel, la troisième dose. Et ce, pour contrer au mieux l'essor des nouveaux variants, notamment Omicron. Ça se fait déjà au Royaume-Uni ou encore en Grèce. Est-ce qu'il vous semblerait pertinent qu'on en fasse de même ?
C'est la tendance qui va s'installer, évidemment. Moi, je ne suis pas un spécialiste des vaccins et j'écoute les autorités et les gens compétents. La bonne nouvelle aussi pour vos auditeurs, c'est qu'a priori, Pfizer nous indique que son vaccin fonctionne contre l'Omicron. Donc effectivement, si on accélère un peu la vaccination, on va être aussi protégé. On est déjà très bien protégé contre le Delta. Et à nouveau, je rappelle, contre les formes graves et les formes mortelles, ce qui est le plus important, puisque c'est vraiment ça qui compte pour ne pas engorger les hôpitaux. Et si c'est le cas, comme ça a l'air de l'être pour l'Omicron, c'est une très très bonne nouvelle.
Le ministre de la Santé a estimé ce week-end que le pic de la 5e vague est proche, ce qui veut dire que la progression des contaminations commence à ralentir. C'est évidemment encourageant, même si pour vous, à l'hôpital, ça signifie que les prochaines semaines vont être les plus difficiles.
Oui, elles sont difficiles. Alors d'abord, on parle plus vraiment de pic, on parle d'un plateau qui va se maintenir pendant la fin de l'année, peut-être jusqu'au début janvier.
Comme l'année dernière ?
Voilà, à peu près comme l'année dernière. La deuxième chose, effectivement, l'hôpital, comme vous le savez, il est en tension. La Covid, en fait, a révélé que l'hôpital était une zone de très grande fragilité, avec une problématique économique, mais aussi une problématique surtout de ressources humaines. Et la Covid a aggravé des burn-out, des épuisements, des départs, elle nous oblige à fonctionner toujours avec 15 à 20% de lits fermés. Donc,
retour des virus hivernaux, ce qu'il n'y avait pas l'hiver dernier.
Exactement. Plus le fait que comme les mesures barrières se sont franchement allégées parce qu'on s'est relâché, on a vu cette année des gastro-entérites, on a revu des bronchiolites. Et donc en pratique, si vous voulez, on espère, et c'est les prévisions, qu'on puisse passer le cap avec au maximum 3000 personnes en réanimation. Mais malheureusement, c'est déjà un double problème. Le premier problème, c'est sur les professionnels qui y travaillent. J'ai une pensée évidemment pour les infirmières qui sont au bout du rouleau et qui ont été un petit peu augmentées avec Ségur, mais c'était juste un pansement sur une jambe de bois. Et puis le deuxième problème, c'est le retour des dégâts collatéraux sur les gens qui sont pas Covid, qui ont rien demandé à personne et qui sont moins bien soignés en période d'intensité de Covid, parce que on met des forces pour prendre les Covid et puis malheureusement d'ailleurs des Covid qui sont pas vaccinés, ce qui est un peu perturbant et qui oui. nous réjouit pas. Et puis pendant ce temps-là, bah, on soigne moins bien les gens non Covid, on prend du retard sur les diagnostics et les traitements des cancers,
professeur,
etc.
Quel est le profil des personnes hospitalisées dans votre service? Ce sont alors, toujours majoritairement des personnes non vaccinées?
Oui, bien sûr. C'est majoritairement des personnes non vaccinées qui finissent par, qui viennent, ils s'aggravent à l'hôpital, puis ils passent en réanimation. Et au moment où on doit les intuber ou les mettre sous des techniques d'oxygénation, quand on leur dit mais vous vous rendez compte que vous êtes passé à côté d'un médicament, d'un vaccin qui est sans risque ou en tout cas dont le rapport bénéfice-risque n'est extraordinairement en faveur de la vaccination. Et là, ils vous disent ah bah oui, si j'avais su.
Et puis une fois qu'ils sont intubés. Comment est-ce que vous avez des personnes qui ont des faux passes sanitaires?
Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns surtout dans la rue, évidemment. Hein. Ça, tout le monde le sait.
Merci beaucoup, professeur Alexandre Mignon, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes professeur de médecine à l'Université de Paris et anesthésiste réanimateur à l'hôpital Bichat à Paris. Très bonne journée à vous.
Bonne journée.
Vous restez avec nous à la partition de Gilbert Bécaud. Dans un instant, nous prendrons la direction de l'Olympia.
On termine avec votre partition, Ombline. Le 18 décembre, nous célébrerons le 20e anniversaire de la disparition de Gilbert Bécaud. Et à cette occasion, vous revenez sur le lien, comment dire, très particulier que le chanteur a tissé avec l'Olympia.
C'est simple, Julien, Gilbert Bécaud a chanté à 33 reprises dans la salle de spectacle du 28 boulevard des Capucines à Paris, un record jamais égalé.
C'est en septembre, quand les voiliers sont dévoilés et que la plage tremble sous l'ombre d'un automne débronzé.
C'est à l'Olympia que Gilbert Bécaud gagne son fameux surnom de Monsieur 100 000 volts.
Son sens du swing, ses performances enflammées transportent des milliers de fans qui finissent en transe. L'histoire d'amour commence en février 1954. Le Toulonnais, presque débutant, ouvre le tour de chant de Lucienne Delisle.
Gilbert Bécaud revient l'année d'après et rend fou 3000 jeunes qui l'attendent dehors.
Cette fois, il électrise littéralement son audience. C'est à ce moment-là que les premiers fauteuils de l'Olympia sont cassés. La légende parle de 23 fauteuils arraché des dizaines de petites culottes projetées sur scène. Écoutez sa voix, très différente quand il débute. Bientôt, il se dotera d'un fort caractère.
Les morts dessinent dans le soir la forme d'un espoir qui ressemble à ton corps.
Les dégâts, entre guillemets, de Gilbert Bécaud écrivent l'histoire de la salle de concert.
À force de frapper sur le piano, il faut régulièrement changer une corde. Il faut surtout couper les pieds et les côtés de l'instrument à la tronçonneuse pour que le public admire le martèlement de ses doigts sur les touches.
En 1969, Gilbert Bécaud se présente à l'Olympia dans un complet bleu surmonté d'une cravate à pois.
C'est le jeune Julien Clerc en chemisette noire et pantalon moulant qui débute la soirée. Le récital se déroule à un train d'enfer. Pas le temps de respirer entre chaque chanson, Gilbert Bécaud sue sang et eau devant un parterre de fidèles qui laisse les fauteuils intacts et en place cette fois.
La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide. Nathalie, oui.
Entre l'Olympia et Gilbert Bécaud, ça a failli pourtant s'arrêter brutalement.
Au milieu des années 90, la salle est menacée de destruction, la révolte gronde, elle est sauvée, fermée pour travaux pendant 7 mois. L'Olympia est reconstruit à l'identique. La voix de Gilbert Bécaud est la première à imprégner à nouveau les murs à peine peints en novembre 1997. Il y a 20 ans, dès l'annonce de sa mort, on peut lire « Salut Gilbert Bécaud » en lettres de lumière sur le fronton du bâtiment.
Je reviens te chercher, je savais que tu m'attendais, je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher, bah tu vois, j'ai pas trop changé, et je vois que de ton côté, tu as bien, bien traversé le temps,
le temps. Tous les deux, on s'est fait la guerre. À tous les deux, on s'est ruiné, volé, pillé. Qui a gagné, qui a perdu, on n'en sait rien, on ne sait plus. On se retrouve les mains nues. Mais après, après la guerre, il nous reste à faire la paix. Je reviens te chercher.
Gilbert Bécaud à l'Olympia en 1997 pour fêter sa réouverture avec Je reviens te chercher. Cela fera 20 ans samedi le 18 décembre qu'il nous a quittés.
Merci beaucoup Ombline pour cette partition. La matinale se poursuit dans un instant avec Dimitri Pavlenko et Anissa Haddadi pour la météo. A tout de suite.
Europe Matin.
Il est 6h27 et c'est l'heure pour nous de vous donner rendez-vous demain sur Europe 1 dès 5h.
Mais oui, dès 5h. Bonjour Dimitri Pavlenko.
Bonjour Julien, bonjour Ombline. Dès 5h de bonne humeur.
Non, on sera toujours là,
bon
comme
pied,
ça.
Bon œil.